It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflits. Ravi de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez également retrouver Conflits en kiosque et sur notre site internet avec un dossier consacré à la Méditerranée orientale. Et puis, comme toujours, vous abonner à Conflits, c'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre ainsi de vous proposer différents contenus comme nos émissions sur YouTube et ici ce podcast, et pour ainsi compléter la réflexion sur la géopolitique. Alors cette semaine, nous allons aborder un sujet qui fera probablement grincer quelques dents. Nous allons aborder de front un sujet essentiel, à savoir les rapports entre la mondialisation et la puissance, la richesse économique de la France. On parle beaucoup de chômage, on parle beaucoup de démondialisation et de délocalisation. Et dans l'esprit commun, on accuse la mondialisation d'être malhonnête, d'être déréglée et d'avoir causé la fermeture d'un certain nombre d'usines, notamment dans les années 1970-1980, et d'avoir provoqué le chômage endémique dont on n'arrive pas à sortir depuis maintenant la fin des années 1960. Nous allons essayer de voir ce qu'il en est du poids, du rôle de la mondialisation, et aussi de cette spécificité française où, comme le disait notamment Nicolas Bavray, de cette préférence française pour le chômage. Et pour cela, il faut revenir à l'histoire, et notamment revenir à l'histoire économique. C'est ce que je vais faire cette semaine, ce que je vous propose cette semaine avec mon invité Félix Thorez. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflits. Vous êtes historien en histoire économique. Vous avez écrit de très nombreuses histoires d'entreprises, qui vous donne une connaissance sur des sujets assez vastes que ce domaine au cours du XXe siècle. Et vous venez de publier aux éditions des Belles Lettres avec un autre historien de l'économie qui a longtemps été à l'Institut de Strasbourg, Michel Haut, un ouvrage intitulé « Le virage manqué ». Le virage manqué, 1974-1984, c'est 10 années où la France a décroché. Alors si dans cet ouvrage vous vous concentrez essentiellement à cette décennie, 1974, vous montrez d'ailleurs qu'il y a une grande continuité entre le gouvernement Giscard Chirac et Mitterrand, Pierre Mauroy Fabius, et que la rupture de 81, telle qu'elle a été annoncée, n'en est pas vraiment une. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Vous commencez votre étude bien avant l'année 1974, et notamment avec l'après-guerre, 1944-1945. La mise en place de ce fameux modèle social que le monde entier nous envie, selon la formule consacrée, même si on l'emploie un peu moins depuis l'épidémie du coronavirus. Et dans cet ouvrage, vous analysez le rapport donc entre développement économique, puissance économique et mondialisation, en montrant que la France a un somme de retard par rapport à ses voisins, notamment l'Angleterre, notamment la Grande-Bretagne. Vous donnez quelques chiffres qui sont très éloquents, on aura l'occasion d'y revenir, notamment sur les faillites des entreprises, et que finalement ce n'est pas tant la mondialisation qui est responsable que des erreurs françaises qui ont été prises en compte. Alors, commençons peut-être par ces années 70, parce que en 1967, c'est la création de la NPE par Jacques Chirac, à l'époque secrétaire d'État, une invention qui existe encore aujourd'hui, c'est peut-être le principal legs de Jacques Chirac à la France, peut-être, et puis le début du chômage. Nous sommes là en 1967, donc avant le choc pétrolier de 1973, et déjà en lisant votre ouvrage, il y a une première idée commune que vous battez en brèche, mais l'historien est un mythocide, un tueur de mythes, c'est d'expliquer que la France n'allait pas aussi bien avant le choc pétrolier, et que la crise économique de 1974-1980 n'est pas tendu au choc pétrolier qu'à des problèmes structurels qui avaient commencé avant et que le choc de 1973 n'a fait qu'aggraver la situation existante.
Oui, tout à fait. Je crois que le choc des années 70, c'est un révélateur. Hein. C'est un révélateur de beaucoup de choses. D'abord, des faiblesses d'un mythe national qui est apparu après, qui est les Trente Glorieuses, hein, l'expression est de Jean Forestier en 78. Donc, déjà, le miracle français, entre guillemets, des années 50-60, début 70, c'est déjà un regard a posteriori, dans le rétroviseur, si on veut. Je dirais, il y a un point énorme en France, il y a eu un point énorme après la guerre, d'une notion qui s'appelle les cycles, les courbes économiques. On a eu un très grand historien qui s'appelait Fernand Braudel, qui a inventé l'économie monde, le temps de l'échange, le temps de la production. Bref, moi j'ai grandi à la fin de cette époque, et c'est vrai que dans cette époque, le monde, l'économie était gouvernée par des cycles courts, moyens, longs, Kondratiev, Juglar, et on n'y pouvait rien. Ces cycles allaient vers quelque chose, pour la gauche, on va dire communiste et socialiste, vers le socialisme, on va dire, il fallait un petit coup de pouce pour aller au-delà, mais ces cycles portaient l'économie, et ils étaient automatiques. Et puis la mauvaise surprise a été de constater que les deux chocs pétroliers ont enclenché, c'est autour de l'année 74, un changement de paradigme économique. C'est-à-dire que la croissance des pays développés, dont la France, qui était avant entre 5 et 10 %, elle s'affaiblit et elle n'a jamais retrouvé le niveau d'après-guerre. Le pays le plus dynamique étant le Japon. Ça n'a pas été vu dans les années 70. Dans les années 70, on se dit, puisqu'il y a des cycles économiques, on va faire les plans de relance, c'est la grande époque du keynésianisme, on va alimenter la demande, parce que la demande keynésianiste en France, elle repose sur l'idée que les classes populaires sont sous-consommées, sous-consommatrices, elles sont entre guillemets pauvres, et donc il faut toujours mettre de la relance économique, de la demande, parce qu'on est en retard, en termes de niveau de vie. Donc le keynésianisme consistait à dire, réinjectons, et ça a été le plan Chirac de 74-75, que assez durement nous qualifions de catastrophe, qui est un plan de relance qui passe à côté de la situation, et surtout qui a évité de voir les problèmes. Les problèmes, c'était quoi? C'est le fait que l'économie française d'après-guerre, qui est une économie de reconstruction, les dégâts de la Deuxième Guerre mondiale, qui est une économie de rattrapage, on a tout appris des Américains, en particulier les missions de productivité, le plan Marshall. On a fait comme les Américains et quelquefois on les a dépassés. Mais ce rattrapage, notamment en termes de productivité, à un moment donné, il se tasse. De façon, moi c'est ce qui nous a frappé, c'est que dans les pays anglo-saxons, fin des années 60, déjà les États-Unis et la Grande-Bretagne voient que le modèle qu'on appelait Fordiste, on va dire, modèle d'après-guerre, s'affaiblit, que les taux de croissance baissent et que le chômage monte tendanciellement. Ça ne correspond pas au schéma économique de l'époque. Et donc, il y a déjà une réflexion anglo-saxonne pour dire qu'est-ce qui se passe? Comment on va sortir? C'est une réflexion entre guillemets volontariste qui consiste à dire toutes les recettes qu'on a déjà employées ne marchent pas. Et rappelez-vous, quand même, au milieu des années 70, y compris en Grande-Bretagne et aux États-Unis, l'inflation était très élevée, très très élevée. Le chômage monte, c'est la fameuse stagflation, et on ne sait pas ce qui se passe. Alors, on agonie en France d'injures historique Margaret Thatcher, on a oublié qu'avant il y avait un certain James Callaghan, et il était dans les assises complètement collées. Hein. La Grande-Bretagne a dû faire appel au FMI.
Il y a des coupes à l'électricité et des problèmes d'approvisionnement.
Gigantesque grève, ce que la fameuse phrase selon tirée de Richard III, l'hiver, voilà venu l'hiver de notre mécontentement, c'est avant Thatcher ça. Sauf que les pays anglo-saxons, notamment à New York, les penseurs britanniques, ils ne savent pas comment sortir. Ils bricolent. Et leur bricolage consiste à dire, on va remplacer la demande, l'offre, par l'offre. Et on va essayer de casser l'inflation. Enfin, c'est tout le réganisme et tout ça chérie des années 80. Donc, il y a une réflexion qui est une réflexion, je dirais, de réaction. D'adaptation et de réaction. L'Allemagne fait pareil avec Helmut Schmidt. Hein, elle sert les boulons. Elle se remet dans les rails d'un équilibre budgétaire. Et surtout, je vais y revenir, c'est un des points, à mon avis, importants du livre, c'est le modèle qu'on appelle alpino-nordique. Elle dit, il faut continuer à monter en gamme. Je vais y revenir. Quant à la France, elle se pense hors du monde. Ses penseurs économiques et ses élites ne réfléchissent pas à ce qui se passe. Et donc disent, bah écoutez, il faut relancer la machine économique. Ce sera Chirac, ce sera 1475, ce sera Mitterrand, Mauroy, Fabius de 80, 83, avec les résultats qu'on en sait. C'est-à-dire, ils ne s'attaquent pas au mal. Le mal, c'est la compétitivité de l'économie française. Et c'est surtout le changement de paradigme de l'industrie française. Celle d'après-guerre n'est plus celle qui va permettre de performer sur les marchés internationaux et donc de donner de l'emploi aux Français. Donc la montée du chômage en France, ce n'est pas la faute à la Chine. Comme j'entends tous les jours aujourd'hui, la Chine, elle n'existe pas. La réforme de Deng Xiaoping commence en 1978, l'entrée de la Chine dans l'OMC, c'est 2001. La Chine devient l'atelier du monde dans les années 2000. Attendez, la crise de la subversion française, si je ne m'abuse, c'est 76-79. Donc, la crise, ce que la France, les élites françaises de l'époque, ce que l'histoire se rattache toujours dans la vision de l'époque, n'ont pas vu, c'est qu'il y a une crise du modèle français d'après-guerre, qui est inadaptée au changement de paradigme de la conscience économique mondiale, qui est inadaptée à un univers de concurrence sur lequel on reviendra. Mais ça, la France ne le voit pas.
Alors, on abordera un peu plus tard dans l'émission la question du modèle social. Il y a deux points sur lesquels vous interrogez. D'abord, le fameux livre de Jean Fourassier, Les Trente Glorieuses, c'est généralement un livre dont tout le monde cite le titre, mais sans l'avoir lu, comme d'autres livres, et au moins le nom est resté. Or, dans son livre, Jean Fourassier insiste effectivement sur les transformations majeures qui sont indéniables entre 45 et 78, mais il montre aussi, enfin, lui insiste beaucoup sur la productivité, sur le rôle de la productivité comme transformatrice, mais il insiste aussi sur les retards ou sur les faiblesses de la France, notamment en matière de productivité. Donc, c'est à la fois un livre qui constate une embellie, et qui montre aussi pourquoi c'est en train de s'enrayer et comment ça risque de mal se passer dans les années qui viennent.
Julien, vous avez raison. Il y a un sursaut théorique français fin des années 70 qu'on a complètement oublié. Les nouveaux économistes, qui étaient libéraux, un livre d'Henri Lepage qui revient des États-Unis avec toutes les nouvelles théories que j'ai évoquées tout à l'heure, qui s'appelle « Demain le capitalisme ». Tout est dit dans le titre, vous voyez. Raymond Barre. Il y a toute une. Le monde patronal français autour de l'Institut de l'entreprise pense à la crise. Et pense à la question de la compétitivité de l'économie française, notamment par rapport à des marchés qui ne cessent de s'ouvrir. Parce que la mondialisation, elle commence en 1945, quand les États-Unis, à Bretton Woods et ailleurs, avec le GATT, disent nous, on voudrait éviter les guerres à venir par plus d'ouverture. C'est Cordell Hull, le secrétaire d'État de Roosevelt. Et voilà, le doux commerce, si vous voulez. Donc, abaissons. De round du GATT en round du GATT, le Tokyo Round en particulier, le Kennedy Round, on avait sans cesse les barrières douanières. Donc ça veut dire qu'on rentre dans une économie mondiale de libre-échange, graduellement. Ça échappe totalement à la pensée économique française et aux élites françaises. Parce que qui dit économie mondiale dit il faut nos entreprises à côté du marché domestique. Mais le marché domestique, dès l'instant où il commence à s'ouvrir, voit arriver des concurrents. On ne peut pas se contenter de dire aux Français achetez Renault et achetez Peugeot et achetez Renault. Vous n'avez pas le droit d'acheter allemand, vous n'avez pas le droit d'acheter italien, vous n'avez pas le droit d'acheter américain, vous n'avez pas le droit d'acheter. Non, laissons les frontières s'ouvrent, c'est pour tout le monde. Ça pose la question de la compétitivité des entreprises françaises et, je dirais, de leur niveau de gamme, de leur montée en gamme. Compétitivité, on montre dans le livre, on explique que l'État-providence tel qu'il se construit entre 1944 et 1945, il fait reposer l'essentiel du financement de l'État-providence sur les entreprises.
C'est une entreprise qui paye, donc ce n'est pas le salarié qui va payer. C'est une erreur d'ailleurs, mais...
Oui, ailleurs ça se passe différemment. En France, il y a le leg de la trahison des élites entre 40 et 44, le fameux mot de Gaulle au patronat « Je ne vous ai pas vu, vous n'étiez pas à Londres, je ne vous ai pas vu à Londres ». Bref, il y a une sorte de péché qu'on fait porter à... permettre, comme aux femmes tendues à la libération, on fait porter un péché à ceux qui ont failli, alors que c'est la nation qui a failli, c'est l'État qui a failli, et l'armée qui a failli en 40. Il y a deux ou trois couches populaires, il y a deux ou trois couches sociales qui doivent payer, et notamment, c'est tout le mythe du Conseil national de la résistance qui revient régulièrement, en pensant que les jours heureux. Il est clair qu'il fallait installer l'État-providence, enfin, le welfare state, c'est pas une invention française. Quand aujourd'hui on parle d'État-providence, de sécurité sociale, on a l'impression que la France l'a inventé. Et que ça a été toujours comme ça, c'est sorti du cerveau du général de Gaulle ou de la Roque ou de deux ou trois milliers du travail communiste, Ambroise Croizat, etc. On pense que c'est sorti comme ça, Et c'est un modèle intangible, et ailleurs ils sont mauvais. Non, c'est un modèle qui s'est construit dans la durée, et surtout, le mode de financement a reposé sur les entreprises, avec en plus les impôts de production, qui sont une fantastique taxe à l'envers, puisque les concurrents étrangers arrivant sur le français, marché français ne payent pas d'impôts de production, les entreprises françaises payent les impôts de production. Donc ça veut dire que, grosso modo, les marges des entreprises françaises par rapport à la moyenne européenne sont plus basses que le reste. Et donc, ça empêche en partie les entreprises françaises d'être plus compétitives, plus dynamiques à l'exportation, de faire plus de recherche et développement. Bref, de gagner des parts de marché, de monter en gamme. C'est un cercle. C'est un cercle.
Vous évoquez le keynésianisme, et il y a ça aussi qui est assez surprenant, c'est la manière dont les élites françaises, notamment les élites administratives, ont adopté le keynésianisme, enfin qui est un keynésianisme aussi un peu abattardi, parce qu'ils n'ont probablement jamais lu Keynes. Et en revanche, on ne manque pas en France d'économistes de renom, enfin, notamment à l'époque on a Jacques Rueff, qui a eu un rôle essentiel notamment en 58, il y a Maurice Allais aussi, et ces économistes français ne sont jamais convoqués, comme si tout en revendiquant la spécificité du modèle français que tout le monde nous envie, on va le chercher à l'étranger sans utiliser des économistes français qui sont parfois plus connus à l'étranger que chez nous.
Je pense que le keynésianisme, d'abord, il y a un très grand pragmatisme de Keynes. Donc il faut rendre à Keynes ce qui appartient à Keynes. Keynes n'a pas la théorie infuse. Il voit les dégâts de la Première Guerre mondiale, il voit les dégâts de la crise. Il bricole, je n'aime pas le terme. Il adapte ses outils. Hein, vous voyez, bon. La France en fait un dogme. Je pense que c'est lié au lendemain du Front populaire. C'est lié à la crise de la fin des années 30 en France. Et à l'occupation, qui est que quelque part, les classes populaires ont toujours été les sacrifiées en France, donc il faut faire un effort sur les classes populaires, il faut renforcer la demande, il faut monter le SMIC, c'est-à-dire, il y a tout un discours. Le keynésianisme a été adapté à la française, c'est-à-dire comme une doxa de gauche, quoi. Renforçant le pouvoir d'achat des classes populaires qui est fatalement toujours sacrifié en France. Et c'est le discours qu'on entend tous les jours. Bien sûr, nous sommes d'accord, mais en parallèle, ce sont les entreprises qui financent le dynamisme économique, ce sont elles qui créent les emplois, qui maintiennent les emplois, donc il faut aussi s'occuper des entreprises. Et là, on est obligé de reconnaître, y compris chez Valéry Giscard d'Estaing comme chez Jacques Chirac, ce ne sont pas des gens d'entreprise, hein. Même Giscard d'Estaing ne vient pas d'un milieu d'entreprise, hein. Ce sont des gens qui ont le mépris des... Enfin, eux et tous, enfin tous les gens de l'État, ont le mépris
du
commerçant. Il y a un immense mépris qui remonte à l'ancien régime, qui est, allez, vous êtes le bourgeois gentilhomme qui s'est mal dégrossi de votre tourbe commerçant. Et donc, il y a un mépris, on les écoute pas, on les considère pas, et on dit, voilà, on a vraiment un patronat malthusien, on a vraiment un patronat qui est nul. Ça revient, mais jusqu'à aujourd'hui, ça revient comme une ancienne. Moi, je dis plutôt, enfin, nous disons plutôt, donnons aux entreprises les conditions pour qu'elles puissent être compétitives sur une économie mondialisée. L'économie n'est plus celle de l'après-guerre, qui est une économie pratiquement semi-fermée, contrôle les prix, contrôle l'échange, tout le crédit est entre les mains de l'État. C'est fini cette époque. Toutes les économies mondiales se sont ouvertes, à part la Corée du Nord. La France vit encore dans le mythe colbertiste, et moi nous ajouterons Méline, le fameux l'homme des lois protectionnistes de l'OMC, qui disait, voilà, moi je me fiche du consommateur mondial, je résume, hein, ce qui m'intéresse, c'est les 35 millions de consommateurs français, avec un gros pouvoir d'achat, c'est eux qui m'intéressent. Ça, c'est le mythe français, c'est le mythe français d'un pays plein, d'un monde plein, comme diraient les historiens, la France de Louis XIV, la France de Napoléon, qui avait 20-25 millions d'habitants, qui dominait démographiquement l'Europe et qui avait un marché longtemps cloisonné qui se suffisait à elle-même. Et Colbert pouvait dire, qu'est-ce qu'on ne fait pas dire à Colbert? Pouvait dire, faites-moi venir les techniques hollandaises ou italiennes, on va faire aussi bien que nous avec les gobelins ou autre chose, parce qu'on a un fantastique marché intérieur en friche. Il avait raison, Colbert. Mais aujourd'hui, le marché français, c'est 3% ou 2% du marché mondial. Même une entreprise, et c'est la notion de mondialisation des entreprises qu'on évoque dans le livre, les entreprises françaises au milieu des années 80, soit elles meurent, combien d'entreprises sont mortes? Il y a un cimetière d'entreprises des années 75, des années 85, il y a Manufort, bien sûr, il y a LIP, il y a la sidérurgie, mais il y a des quantités, des foultitudes. Bah, la seule solution, c'est aller dans l'international. à côté du marché domestique. Mais attendez, on a envie de dire, attendez, si on regardait ailleurs, et justement, qu'on ne se contente plus de parler en notion de retard, mais dire, voilà, il nous arrive quelque chose de neuf qui est la mondialisation, qui est l'ouverture des frontières, qui est la concurrence des nouveaux pays industrialisés asiatiques, c'est vrai, elle apparaît à cette époque, hein. Nous voilà menacés par des pays gigantesques qui s'appellent la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour. Authentique. Les MPI, les 4 dragons, c'est quand même pas, je dirais, la Chine d'aujourd'hui ou les États-Unis. Ce sont des tout petits pays. Ils apparaissent sur la scène mondiale. Voilà quelque chose de neuf. Des MPI. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Et donc la seule solution, mais l'Europe alpine et nordique l'a compris, hein, la Suisse, l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Suède, ces pays, ces tout petits pays qui ont le malheur de ne pas avoir autant de millions d'habitants que nous, bah écoutez, qu'est-ce qu'ils font? Ils spécialisent leur industrie sur quelques grands secteurs et ils montent en gamme. Parce que quand vous avez une économie où le niveau des charges sociales, le niveau des salaires est élevé en France, et c'est normal, c'est l'État-providence à la française, high cost, quand vous avez des high cost, vous ne pouvez pas faire du bas de gamme ou du milieu de gamme. C'est plus possible. Il faut faire du haut de gamme. High cost, high prices. Ça, et je pense que c'est ça qui, alors, dans le mano à mano sans éternel avec l'Allemagne, je crois que c'est un peu aveuglant. Parce qu'évidemment, on ne dépassera pas l'Allemagne, c'est clair. Mais comparons-nous avec d'autres pays que l'Allemagne, les pays, la Suisse ou l'Autriche, le SMIC suisse, il est deux fois plus élevé que le SMIC français. Dans les années 50-60, c'était le même niveau.
Ce qui est intéressant aussi dans votre ouvrage, c'est de montrer, enfin, vous avez évoqué les entreprises qui ont fermé. Finalement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une sorte d'épée du chevalier qui est de plus en plus limée par les accroissements, les taxes. Enfin, vous donnez la liste qui est impressionnante, taxes sur les bénéfices, sur les, vous avez évoqué les impôts de production. Donc, une épée de plus en plus illimée. Et après, on demande aux chevaliers d'aller combattre contre des entreprises étrangères qui ont une épée bien tranchante. Et notamment, vous donnez les chiffres des fermetures d'usines, fermetures d'entreprises entre 71 et 76. La France, par rapport à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne, donc trois pays comparables et qui subissent la même mondialisation, la France a des fermetures de 2 à 3 fois supérieures à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne.
Ça, c'est le défaut du septennat du Valéry Giscard d'Estaing. Il y a quand même un homme qui a essayé de renverser la vapeur, c'est Alain Bombard, hein, aidé par un patronat éclairé de l'époque, hein, l'Institut d'entreprise dont j'ai parlé, créé par des gens comme François Dalle, et qui dit, voilà, il faut rétablir les équilibres, il faut rendre l'économie française plus compétitive. Le plan Barre aurait pu marcher. Moi je dis, nous disons souvent en forme de boutade, et si en 81, Giscard avait gagné jusqu'à la fin de l'année 1980, il est en tête dans les sondages. Après, il y a un basculement qui s'opère, notamment à cause des diamants. Alors que la France a rétabli son commerce extérieur. Mais comme nous le disons dans le livre, ça n'a pas fait la une des journaux, le rétablissement du commerce extérieur français. On parlait des diamants de Bokassa. C'est beaucoup plus vendeur. Mais le plan Barre, il est passé à la trappe de l'histoire. Giscard aurait gagné ou même sans gagner, on pourrait célébrer dans le plan Barre, dans le redressement français d'avant 81, un moment de l'histoire économique ou l'histoire française tout court. C'est quand même sur Raymond Barre que le sortant, hein, la majorité en 78, est réélu.
C'est le dernier.
On s'émerveille en ce moment sur Merkel, et aussi sur la durée de Thatcher, d'autres. Mais attendez, ces gens-là, ils ont été réélus 3-4 fois. Ils ont été réduits 3-4 fois. Pourquoi? Parce que leur politique a réussi. Elle a réussi, donc l'électorat a renouvelé sa confiance en disant, voilà des gens qui font le job. Nous, en France, et on s'étonne. Alors que le chômage a cessé de monter comme une vague inexorable pendant 30 ans, démentant le mot, je dirais, absolument scandaleux de François Mitterrand, contre le chômage, on a tout essayé, ce qui était totalement faux. Et vous voyez, On n'y peut rien, c'est la faute à l'économie, c'est la faute à la mondialisation. Bref, le chômage monte, fin l'ascenseur social, désespérance sociale, banlieue qui craque, etc., baisse du niveau de vie français, il faut quand même le dire, hein, pour une majorité de la population. Donc, le modèle français se détraque à partir des années 70, et justement, il se détraque parce qu'il ne sait pas prendre le virage de la mondialisation.
Et après, on s'étonne que les gens ne votent plus.
Et on s'étonne que les gens ne votent plus, et parce qu'il y a plus... Et que les 30 glorieuses soient finies, ben oui, il y a une désespérance sociale, les gens sont mécontents, on voit apparaître le Front National à cette époque-là, hein, sous Mitterrand, entre 82 et 85, si je ne m'abuse. Les gens voient bien que ça ne marche pas, que les politiques ne font pas le job. Et étonnons-nous donc que le dernier gouvernement à avoir été réélu, et Raymond Barre l'avait dit, hein, j'avais été beaucoup frappé par ce qu'il a dit, pas parce qu'il l'a dit à moi, mais parce que j'avais retrouvé ailleurs nulle part, il a dit, on a gagné les élections de 78, ça nous a donné un espace politique inédit, donc on a commencé à libéraliser la France. Le prix de la baguette, les six carbonneries, assouplissement du contrôle des prix, bref, la France sort d'une économie semi-fermée. Mais le pays qui a poussé le plus la leçon de fermeture sur l'économie moderne, c'était le Mexique. Le Mexique des années 70. Ce qu'on appelle l'import-substitution, théorie oubliée aujourd'hui, qui consiste à dire on n'importe pas, on fait tout nous-mêmes et on n'importe que le minimum. Sauf que le modèle explose au début des années 80 et le Mexique
fait faillite.
Fait faillite, c'est connu. Ce qui évite à la France de faire faillite en 82, vous savez, il y a eu un débat au sein de socialiste.
Oui,
il y avait les Albanais, ce qu'on appelait les Albanais.
Vous l'évoquez, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet aussi après de comprendre l'euro. En fait, c'est l'Allemagne qui nous a sauvés et le Bismarck.
Absolument. Ce qui nous sauve toujours aujourd'hui, c'est qu'on est raccroché à l'euro. Hein. C'est... Parce qu'aujourd'hui, avec le Covid a tout changé, hein, c'est pas le sujet, mais avant, il est clair que le franc serait livré à lui-même, on aurait des trains d'évaluation qu'on avait déjà depuis 44-45 quand même. Des trains d'évaluation successives, hein, vous voyez, et tout serait plus cher, tout ce qu'on importe serait beaucoup plus cher. On ne mesure pas le fait d'être rentré dans la zone euro, et c'est l'Allemagne qui nous a sauvés. Il y avait un double débat, et il faut reconnaître que Monroy et Delors en particulier ont beaucoup poussé à cette solution. Il y avait un clan d'Albanais, dont je ne citerai pas les noms, mais le mot même albanais suffit à comprendre, qui consiste à dire « on sort ». On sort du serpent monétaire européen, on sort des accords avec. Mais où en sera la France à ce moment-là?
Et d'ailleurs, vous expliquez que en 67-68, De Gaulle refuse de dévaluer, et en revanche, il met en place une politique de dépenses.
Tout à fait.
Qui est la bonne politique, effectivement, de réduire les dépenses publiques. C'est un des, là aussi, après le Pompidou, mais c'est un des derniers gouvernements qui a baissé la dépense publique.
Alors, je suis d'accord avec vous, je me méfie du mythe, je suis tout à fait, la France gaulliste pompidolienne, c'était un grand moment de l'histoire française, et un moment relativement, je dirais, orthodoxe en termes économiques. Mais je me méfie de la vulgate champion industriel. Parce que le problème des entreprises françaises à cette époque, et ça va être le cas jusqu'aux années 80, elles sont sous capital, elles n'ont pas de capital. Un ami à moi qui s'appelle Didier Pidot-Valenciennes l'a dit un jour, c'est du capitalisme sans capital. Tous les rapprochements industriels faits à l'époque, y compris certains encore aujourd'hui, c'est on fusionne des actifs sans apport de fonds propres. Et donc, si vous n'avez pas de fonds propres, comment voulez-vous développer des connaissances satisfaisantes? Et là, il y a un miracle français complètement passé inaperçu. C'est le miracle, on va dire, le mot miracle est une facilité de langage. De 85 à 80 à 2000, on va dire, de 2000-2005, c'est-à-dire les grandes entreprises françaises dans le CAC 40, soit elles ont poursuivi Michelin, Saint-Gobain, Lafarge, soit elles se sont réinventées, AXA, LVMH, Schneider Electric, ça n'existait pas avant, et elles deviennent mondiales, sans l'État. Elles deviennent mondiales grâce à notamment un phénomène dont il faut rendre à Bérégovois, en particulier à la paternité, qui est la déréglementation. La place financière française. Alors, pour des raisons, c'est l'histoire progresse toujours par le côté gauche, comme on l'a dit, c'est que le Trésor dérégule la place française, notamment c'est le Big Bang de la Bourse de Paris, comme les Big Bang, les Stock Exchange new-yorkais et londoniens, pour une raison très simple. C'est qu'il fallait négocier sur les marchés extérieurs la dette française, au meilleur coût. Donc le Trésor a dérégulé pour financer la dette française, pour la négocier sur les marchés internationaux. Et ce faisant, il a créé une place française très forte, très dynamique, très ouverte, qui a financé les entreprises du CAC 40, dont la valeur a été multipliée par 20 en 30 ans. C'est-à-dire que les entreprises du CAC 40, à l'instant, elles deviennent mondiales, elles sont aussi cotées sur un marché mondial. Et donc, quand vous êtes cotées sur un marché mondial, il faut que les performances suivent. Il faut que vos ratios soient bons. Donc, elles ont été entraînées dans une spirale vertueuse. Moi, je connais bien l'histoire de Schneider. Le groupe Schneider ne valait rien après les dépôt de Crozevoix. Il était à la ramasse, il avait été suspendu de cotation pendant 6 mois en 85. Et peu à peu, en se reconstruisant, en faisant des OPA réussites et des mécaniques Squardy, il devient mondial, bon, il est aujourd'hui un leader mondial, hein, sous l'utilisation de Pascal Pricoire. Ben, écoutez, en ce faisant, il a multiplié sa valeur boursière par 20, il a créé des milliers d'emplois, ben, il a fait une renaissance. Il l'a fait grâce à la place boursière française.
Ce qui est d'ailleurs un des paradoxes de l'histoire économique française, c'est que c'est la droite qui mène des politiques socialistes et la gauche qui dérégule. On a vu aussi ces grandes privatisations sous le quinquennat de Lionel Jospin et un Chirac qui, après, au contraire, était très rétif à ce genre de choses. Donc,
bon, selon la théorie classique de Raymond, il y a plusieurs droites en France. C'est sûr que la droite bonaparte-gaulliste était très intervenue. Très interventionniste, pas très libéral, et que le courant libéral en France, qu'on pourrait dire celui de Raymond Barre, celui de Balladur, celui de d'autres personnes, a toujours resté minoritaire. Et l'un des échecs politiques de cet élève de Giscard d'Estaing, qui par ailleurs avait de grandes qualités, c'est-à-dire qu'il n'a pas su affirmer au sein de son camp l'hégémonie politique du courant libéral, face au néo-gaullisme que Chirac a fait renaître, et il a amené, je dirais, au pouvoir en 86, puis par la suite, en faisant tomber Giscard.
Oui, en 81, il a poignardé Giscard pour essayer de prendre la place. Autre paradoxe, comme vous avez aussi un petit peu souligné, c'est à la fois, les Français sont rétifs à la mondialisation, et dans le même temps, et notamment depuis les 80, on a des champions industriels ou entrepreneuriaux très importants, dont on s'en réjouit d'ailleurs. On pense à Michelin. Alors, il y a les grosses entreprises, Michelin, AXA, Total, par exemple. Et puis, il y a plein d'entreprises, même de TPE. Je pense notamment, par exemple, de nombreux vignerons français qui vendent énormément à l'export, sans évoquer le cognac.
Le champagne.
On a aussi beaucoup d'entreprises dans le textile. Ce qui est intéressant aussi de voir, depuis quelques années, une renaissance du textile en France. Je pense, par exemple, à Saint-James, qui a multiplié par 3 en 15 ans son nombre de salariés en France, donc en Normandie. Donc là, une entreprise, enfin une activité qu'on estime être à bas prix, être bon uniquement pour l'Éthiopie ou pour la Turquie ou le Maroc, bah dans un textile, effectivement, d'ailleurs qui n'est pas haut de gamme, qui est de gamme moyenne, pas tout à fait abordable, on a un développement, mais c'est aussi, ça va de pair avec une mécanisation, une robotisation.
Oui, alors c'est une immense... Il est clair que, d'abord, les entrepreneurs français sont très doués dans tous les secteurs. Ils sont capables, et ils le font, et ils l'ont montré là, et sur tous les marchés internationaux. Donc, je dirais, l'ancienne, comme quoi, c'est la faute au patron. Non, je ne comprends pas. Il faut leur donner les bonnes conditions. Il faut aussi que quelque part, je dirais, il faut se méfier du mirage du produit en français, pour dire des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on vit à l'époque des chaînes de valeur mondiale aujourd'hui. Et que c'est ce qu'on appelle l'avantage comparatif de Ricardo. C'est-à-dire, ça consiste à dire qu'il est bon de ne pas tout faire dans une chaîne de valeur, parce que si A est styliste, j'aime bien cet exemple, et dit, bon, moi je suis styliste, je suis A, mais je fais aussi le métier de B, c'est-à-dire toutes les matières premières, l'assemblage, la mise en place, donc je fais tout, A se conforme à B, donc AB va vendre à qui alors? Parce que la question de l'avantage comparatif, c'est qu'il faut bien qu'on ait des partenaires dans l'échange. Et donc, c'est ce que l'Asie a compris, avec le Japon, puis après tous les autres pays d'Asie, ce qu'on appelle la théorie des oies sauvages, que j'aime beaucoup, qui consiste à dire, on décentralise une partie de la production d'une filière, on va dire, celle notamment avec un haut niveau de main-d'œuvre et valeur ajoutée faible, on la fait faire par d'autres, c'est pas scandaleux, c'est pas honteux, comme ça, ils rentrent dans l'échange, ils apprennent, et nous, on se concentre, on monte en gamme. Et on a une chaîne intégrée. C'est ce qui veut dire, et c'est ce que fait très bien l'Allemagne. L'Allemagne le fait très bien avec toute l'ancienne Europe de l'Est et avec notamment avec la Chine, c'est-à-dire elle crée des chaînes de valeur où l'assemblage final, le made in Germany, se fait en Allemagne. Nous, on a pris la mondialisation française des entreprises après un autre modèle, majoritairement, qui concerne un modèle horizontal, c'est-à-dire qu'on va ailleurs, on cherche des marchés ailleurs, on achète des entreprises sur place. Pour produire, donc on délocalise, on va dire. Parce que franchement, le poids de la Chine dans la position industrielle française, ce que la Chine aurait pris la position industrielle française, ça existe, mais enfin, c'est quand même extrêmement secondaire. Ça n'a rien à voir avec le poids de la Chine dans l'industrie américaine ou le poids de la Chine dans l'industrie japonaise. Pour des raisons de proximité, la Chine est loin. Non, non, la question elle est, les entreprises françaises globalisées ont beaucoup plus délocalisé que d'autres pour avoir de nouveaux marchés. Au lieu de construire ces chaînes de valeur intégrées, que fait très bien l'Allemagne en particulier. Un petit mot quand même sur l'Allemagne, si vous me permettez. Il y a un mythe, le mythe du protectionnisme allemand, le mythe de Frédéric List, que reprend notamment Emmanuel Todd, en disant « Ah, l'Allemagne, il faut protéger son industrie ». Régulièrement, vous avez des gens au sommet de l'État ou ailleurs qui vous disent « Il faut protéger l'industrie française, il faut la protéger, parce qu'elle serait trop fragile ». Bah, attention, elle va se tomber, c'est comme une porcelaine, hein, de sève ou pas. Non, quand on regarde l'Allemagne a toujours été un pays exportateur dès le XVIIIe siècle, parce que c'est un pays émetté. Donc les princes allemands savaient très bien, et quand ils avaient une usine sur leur territoire, le marché princier local ne suffisait pas. Donc l'Allemagne, y compris sous Bismarck, a été très exportatrice, traditionnellement exportatrice, et elle redevient exportatrice en Europe dans les années 50.
Une fois qu'elle s'est coupée en deux.
Même
quand on l'a mutilée en deux, il a fait bien fallu qu'elle exporte.
Si je ne veux pas être anecdote sur la Chine, que je connais par ailleurs, quand De Gaulle, De Gaulle reconnaît la République populaire chinoise en 1964, on dit tous les marchés chinois vont tomber pour que la révolution culturelle, ce ne sera pas le cas. Mais il y a un pays qui va devancer la France sur le marché chinois, c'est la République fédérale allemagne, qui ne reconnaît pas la Chine, qui n'a aucune ambassade. Pourquoi ? Parce qu'ils vendent des produits et ils achètent à la Chine des choses que la Chine veut vendre et qu'elle veut acheter. C'est-à-dire ils sont dans l'échange. D'ailleurs, et comme tous les pays à pignon nordique, je dirais qu'il faudrait prendre comme modèle cette gamme de pays en Europe même qui ont des hauts niveaux de salaire, qui ont des hauts niveaux de compétences, et se dire pourquoi ils réussissent ? Parce qu'ils adaptent leur industrie. Et alors, autre point sur lequel il faudrait insister, c'est la déroute française en matière d'éducation.
Ça, il y aurait beaucoup à lire, ça serait mais je pense, fondamental. Oui.
On ne peut pas rentrer dans les détails, mais c'est un des facteurs de l'affaiblissement français. Parce que quand on a des millions de gens, des millions de jeunes qui sortiront sans qualification, ça va faire des mauvais consommateurs, des sous-consommateurs, si je peux me permettre. Ça va faire des gens qui ne trouveront pas, qui fourniraient pas, ils ne fourniront pas à l'entreprise française la main-d'œuvre qualifiée dont elle a besoin. Bref, c'est mauvais pour la France, il y a eu des rapports de l'OCDE qui l'ont montré. Le déficit du système éducatif français, la faiblesse de l'apprentissage en France, est une des causes de l'affaiblissement français.
D'ailleurs, vous consacrez un petit chapitre à la réforme ABI, et vous m'expliquez, en fait, on a des diplômés non qualifiés. D'ailleurs, on a des armées de gens qui ont eu des masters, mais qui n'ont pas le niveau intellectuel ou technique du grade de master.
Prenons l'exemple de l'Allemagne ou des pays nordiques où l'apprentissage est beaucoup plus élevé, vous avez des chefs d'entreprise qui sont mignorants. Mais nous en France, je ne suis pas très culturaliste, bien qu'anthropologue de formation, mais quand même, on paye ce système français de grandes écoles, d'élites, de diplômes. D'ailleurs, à 25 ans, vous êtes diplômé et voilà, vous êtes sur les rails. Il est clair qu'on ne fait pas assez confiance et regardez des secteurs comme par exemple les entreprises vendéennes. Le miracle vendéen, parce qu'il y a un miracle vendéen dans le blocage autour des herbiers et ailleurs, et ce sont des gens qui viennent de la base. Les entrepreneurs vendéens, je n'ai pas de nom en tête, mais vous voyez, ils n'ont pas fait les grandes écoles, ils n'ont pas fait les écoles de commerce, quoique ils ont peut-être fait Audencia, mais vous voyez, je dirais, on ne fait pas assez confiance en France à tout le savoir-faire, tout le terroir que nous avons. Mais il faut lui donner les moyens aussi.
Dernière question, Félix Torres, que notre émission touche à sa fin. Je voudrais revenir peut-être sur la notion d'industrie, parce que c'est un terme qu'on emploie beaucoup. Quand on pense à l'industrie en France, on pense aux mines de charbon, à la sidérurgie, aux usines Renault. C'est plus vraiment ça, l'industrie aujourd'hui. Et cette dichotomie aussi entre agriculture, industrie, service, qui n'est pas bonne. Jean Fourassier avait complètement effacé le modèle en disant c'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir. Comment est-ce qu'on pourrait définir une industrie aujourd'hui? Et finalement, est-ce qu'une entreprise de presse comme Conflit, par exemple, est-ce que ce n'est pas aussi une industrie ? Est-ce que le commerce n'est pas aussi une industrie dans une forme, dans une acception plus moderne du terme ?
Tout à fait. Il y a une notion qui a beaucoup fait mal, c'était post-industriel. On a pensé que le service allait remplacer l'industrie. Il le fait dans une certaine mesure, mais même le luxe, ou même les secteurs, on parlait de l'agroalimentaire et du champagne, mais les secteurs où il y a une forte dimension de service, ça reste des secteurs industriels. Je pense qu'on ne passera pas à l'industrie. Mais là, je vais être un nouveau provocateur, c'est mon tempérament, l'industrie et le financement de l'industrie. Et là, la France a un peu de retard encore en termes de capital risque, parce qu'il est clair que, regardez ce qui s'est passé sur les vaccins. Les vaccins, les vaccins anti-Covid, on les a trouvés en moins d'un an. C'est un miracle extraordinaire. C'est pas les grands laboratoires qu'ils ont trouvés, français ou américains. Ce sont les petites start-up. Mais pour qu'il y ait une start-up, il faut qu'il y ait des modes de financement en amont très rapides. Et c'est toute la Silicon Valley, on l'a déjà dit, mais ça avait commencé après-guerre sur la route 128. Il y avait un général français qui s'appelait Doriot, rien à voir avec le Doriot de cette époque, qui avait inventé la notion de capital risque. C'est-à-dire financer dès le démarrage sur une idée, sur une simple idée, une petite entreprise innovante dans n'importe quel secteur, industrie, service, tertiaire, lui donner les moyens de se développer. Et l'avenir de l'industrie, c'est aussi l'avenir du financement adapté à l'industrie, notamment ce qu'on appelle le capital développement.
Bien, merci beaucoup, Félix Torres, d'avoir évoqué pour conflit ce virage manqué. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui était coécrit avec Michel Haut, Le virage manqué, 1974-1984, c'est 10 années où la France a décroché, que l'on peut retrouver aux belles lettres et dont toutes les informations, les coordonnées sont sur le site de Conflit. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver donc notre magazine en kiosque dont le dossier est consacré à la Méditerranée orientale et puis vous abonner aussi à Conflit. C'est la meilleure manière de nous soutenir et ainsi de nous puissions continuer à vous proposer du contenu de qualité et je vous remercie de votre fidélité et du fait que vous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.